Bon matin, nouvelle vie. Je suis heureux d'être avec vous en présentiel ici à Longueuil et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. Vraiment heureux d'apporter le message. Aujourd'hui, on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça. Vendredi dernier, pour ceux qui étaient là, vendredi saint, on a vécu un week-end de Pâques incroyable. Et pas seulement ici, mais partout sur les sites à Nouvelle Vie. 10 sites qui ont proclamé l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, une parole qui libère, le seul nom qui est au-dessus de tout nom, c'est celui qu'on a proclamé la semaine dernière. Une semaine après Pâques, je me dis, c'est incroyable parce que l'Église a célébré de manière tellement forte, mais l'Église ne s'arrête pas à célébrer seulement le week-end de Pâques. On recommence une semaine après et une semaine après parce que chaque jour, Dieu est fidèle, Dieu a gagné la victoire et si nous sommes avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'il y a une Église qui est heureuse de célébrer, même une semaine après Pâques, que Jésus est toujours ressuscité et qu'il est toujours la bonne nouvelle que nous célébrons? Et alors que je regardais ça, je me disais, Seigneur, merci pour ce que nous vivons à Nouvelle Vie. Il y a vraiment une faveur sur ce qu'on est en train de vivre parce que peut-être dans une des régions les plus difficiles au niveau de la foi chrétienne, une des régions peut-être même de toute l'Amérique au complet, qui est difficile au niveau de l'annonce de l'Évangile, je crois que Dieu nous donne une faveur de voir des églises, des communautés continuer d'accueillir de nouvelles personnes, de faire en sorte que la bonne nouvelle ne se fait pas seulement en parole, mais aussi en action. D'être une église qui prêche la bonne nouvelle, d'une église qui donne généreusement autour de nous pour combler les besoins des démunis, des gens qui sont là. L'église, ce n'est pas seulement un rassemblement de chrétiens qui vient pour célébrer Dieu, c'est un rassemblement de chrétiens qui vient comprendre que Dieu nous aime tellement, que nous devons aller le dire au monde, que Dieu les aime tellement. Et nous sommes la lumière du monde. J'espère que vous vous en souvenez. Venez aujourd'hui. N'attendons pas que la lumière brille. Nous sommes la lumière. Alors brille. Dis à ton voisin, brille ce matin. À regarder le week-end de Pâques qu'on a eu la semaine dernière, des célébrations, dizaines de célébrations, des centaines de conversions, des personnes qui dans chacun de nos sites, partout, ont levé la main à l'appel en disant « Oui, moi je veux redonner ma vie à Jésus ». Des gens qui sont revenus alors que vendredi dernier, j'étais là, on a fait un appel en avant. Et j'ai vu des dizaines d'ados que moi j'avais vus il y a 10 ans auparavant, étaient revenus ce soir-là pour juste la célébration de Pâques, mais qui ont vécu un moment avec Dieu, qui sont revenus à l'appel en disant je me reconsacre à Dieu. Et de voir la joie dans les cœurs des parents, c'est ça qui est beau pour l'Église. Ce n'est pas seulement l'Église, la bonne nouvelle pour une seule génération, non, pour toutes les générations, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. C'est pour ça qu'on prêche avec passion que vos enfants aient 4 ans ou que vous en ayez 84 aujourd'hui. On prêche la bonne nouvelle parce que tout le monde a besoin d'entendre que Jésus est sauveur et que Dieu t'aime tellement qu'il veut être réconcilié avec toi. Et alors que je regardais ça, des centaines de conversions, des gens qui sont revenus à la maison spirituelle, des baptêmes, même à Nouvelle Vie Québec, la semaine dernière, il y avait des baptêmes qui prenaient place, plus d'une trentaine. Dieu fait quelque chose au travers de notre Église que je crois qu'il ne faut jamais prendre pour acquis. Ça ne veut pas dire que c'est tellement fou qu'on ne l'aurait jamais cru. Non, on travaille fort pour que ça arrive. Mais il ne faut jamais croire que ce n'est que par nos propres forces que nous pouvons vivre ça. Non, Dieu le fait, Dieu fait le miracle, mais il veut se servir de nous pour que nous puissions accomplir avec lui en partenariat le miracle qu'il veut pour que ce monde entende que Jésus est sauveur. De voir que Nouvelle Vie aujourd'hui est sur 10 sites en 3 langues différentes, alors qu'on part d'une francophonie, mais là, en fait, le monde est tellement diversifié aujourd'hui qu'on veut proclamer la parole dans toutes les langues pour que tous les peuples, toutes les langues, tous les âges connaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce que je me disais aujourd'hui, et c'est le titre de mon message, le miracle de demain commence aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de choisir, de faire, d'accomplir, de décider, nos choix d'aujourd'hui vont faire en sorte que nous allons continuer de voir le miracle de demain. En fait, si vous prenez conscience, nous vivons aujourd'hui une saison de récolte parce que beaucoup ont semé dans les dernières décennies. Des gens, des pionniers, ont commencé à prêcher l'Évangile dans une province qui était tellement difficile, mais qui ont cru que Dieu allait faire le miracle parce que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu d'eux. Et quand quelqu'un se lève pour prêcher l'Évangile, des âmes sont transformées, des vies sont restaurées. Et alors que l'Évangile a commencé à se proclamer, il y a quelque chose de fort qui s'est passé jusqu'à nous ici aujourd'hui en 2024, à plusieurs milliers juste, à la première réunion, à la deuxième également, partout sur les 10 sites. Et je regardais ça, je me disais, Seigneur, merci parce que tu te sers de nous. Merci parce que certains ont semé et aujourd'hui nous récoltons. Donne-nous de nous semer dans notre génération pour que les enfants de nos enfants puissent continuer de récolter les fruits spirituels que nous semons. Nous récoltons car beaucoup ont semé. Ici même à Nouvelle Vie, il y a 30 ans, une poignée de personnes ont dit, il y a un rêve, pour une église d'impact en francophonie. On va se joindre aux autres églises et aux autres dénominations parce que nous sommes la même famille. Mais on croit que Dieu a donné à Pasteur Claude une vision spécifique pour cette église, qui n'est pas seulement une église locale, mais une église globale. Du local, nous impactons toute la francophonie. On reçoit toutes les semaines des gens qui nous disent « Ah, je vous ai regardé de Tahiti », même des amis à moi en Chine en ce moment qui disent je suis le... » Mais pas officiellement, parce qu'ils doivent passer par un VPN et tout ça. Bref, je vous explique. Mais quand les gens cherchent, ils trouvent. Et Nouvelle Vie continuera de proclamer au plus grand nombre que Dieu est bon, qu'il est amour et que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu et qu'il veut régner sur nos cœurs encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une église qui peut acclamer le Dieu que nous servons? Et si nous voulons continuer de récolter dans les générations plus futures, si nous voulons continuer de récolter demain, il faut qu'on continue de semer aujourd'hui. Voici une vision d'église qui se réalise. Tout le monde a des visions, mais il n'y a pas beaucoup de visions qui se réalisent. Voici le secret, entre guillemets, d'une vision pour une église qui continue d'avancer, qui se réalise. Ça prend la première chose, ça prend la foi. Ça prend la prière. Une église qui prie. J'espère que vous priez. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous repentir aujourd'hui. On va faire un appel après. Mais on va prier ensemble, on continue de prier parce que ce n'est que par grâce, ce n'est que par l'action de Dieu que nous vivons cette croissance. Ça prend la prière, ça prend l'équipe, ça prend une église qui se lève et qui sert. C'est pour ça qu'on croit que chacun ici, nous avons un ministère. Pas forcément le même ministère, pas forcément quelqu'un qui prêche. Non, certaines personnes disent, moi, je ne sais pas parler en avant, par contre, je sais organiser les choses. On a tellement besoin des ministères de logistique, disent Amen. Si tu es assis en ce moment à la bonne place, c'est parce qu'il y a des ministères de logistique. On a tous des ministères. Et c'est pour ça qu'une église qui se lève et qui sert, ça contribue au miracle que Dieu fait à l'église. La prière, l'équipe, et ça prend les ressources également. Une générosité, une église qui donne avec générosité parce que c'est le cœur de Dieu. On ne peut pas seulement être une église qui dit « Nous vivons quelque chose de bon, ben c'est parfait, on garde ça pour nous. » Non, Dieu nous demande parce qu'on a tellement reçu que nous puissions donner avec grâce, que nous puissions donner avec compassion, que nous puissions donner avec libéralité, avec générosité, dites Amen. Aujourd'hui, je suis encore dans le vendredi dernier, ce matin, j'aimerais parler de cette troisième, justement, de ce troisième pilier. La prière, l'équipe et les ressources. Aujourd'hui, j'aimerais parler de générosité. Et je crois que c'est important aujourd'hui de parler de la générosité et de comment nous sommes des intendants de l'argent que Dieu nous prête. C'est important d'enseigner l'Église, mais c'est important aussi de rappeler à une Église qui le sait, le principe de générosité. Sinon, je pense qu'il y a un danger dans une culture extrêmement matérialiste, de surconsommation partout, où on pourrait mélanger des systèmes de pensée, même une théologie, de croire que Dieu est seulement celui qui pourvoit à mes besoins. Et moi, j'ai juste à recevoir sans jamais rien donner. Je crois que la Bible est remplie d'un couvert à l'autre, d'un Dieu qui lui a donné de manière désintéressée, avec amour, parce que tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans donner. Nous devons aimer Dieu et nous devons aimer notre prochain. C'est pour ça que si tu aimes Dieu, tu dois donner à Dieu louange, adoration, ta vie, ta consécration, mais tu dois également aimer ton prochain et donner à ton prochain. Dites Amen. Parce qu'on est tous le prochain de quelqu'un. Dites Amen si vous voulez recevoir. Mais la générosité, c'est important, sinon on peut mixer parfois des théologies qui sont comme contraires à l'Évangile. C'est un peu comme la dernière fois, je me souviens, Jackson qui avait 4 ans à l'époque, je lui pose la question le dimanche après-midi, « Ah, comment ça s'est passé, Nouvelle Vie Junior, ce matin? Qu'est-ce que vous avez appris? C'est quoi la leçon? Qui a porté? Et c'est quoi les chants que vous avez chantés ?» Et là, il commence à me dire, « Le chant qu'on a chanté, c'est « This girl is on fire quoi ». Quoi? Tout de suite appelé Caleb. Caleb, c'est quoi? Non. Il avait mixé le film qu'on avait vu au cinéma le samedi. Heureusement, ils n'avaient pas chanté ça le dimanche matin, OK? Jesus is on fire. Non, c'est pas ça. Ils ne l'ont pas remixé non plus. Mais alors que j'étais là, j'ai comme, t'as mixé le samedi soir avec le dimanche matin. Fais attention. Parfois, ça peut nous arriver de mixer des théologies, des principes qu'on croit qui sont bibliques, alors qu'en fait, c'est des mensonges. Et vous savez, ici à Nouvelle Vie, on ne croit pas et on ne prêche pas l'évangile de prospérité. Qu'au plus tu es aimé de Dieu, au plus tu vivras une prospérité matérielle qui peut tendre, au plus on comprend ça, à un côté où en fait tu deviens matérialiste. Dieu est seulement ton pourvoyeur, il est ton guichet automatique. J'ai besoin de ça, je veux ma Lamborghini, je veux si je... Comme si Dieu te devait quelque chose. Ça, c'est l'évangile de prospérité. De croire que si en ce moment tu vis des périodes de difficulté dans ta santé ou parfois dans tes finances, c'est que Dieu a une oppression sur toi, Dieu est un accusateur. Non, jamais. Jésus nous montre le principe de générosité, pas pour la prospérité. Il a quitté son ciel de gloire pour venir servir, donner, mourir jusqu'à la croix, donner tout pour que nous puissions vivre cela. Nous prêchons et nous croyons à l'évangile de générosité qui, lui, brise le matérialisme. Et justement, il y a des principes dans la parole de Dieu qui nous parlent de comment être des bons intendants de l'argent que Dieu nous donne pour pouvoir justement ne pas vivre sous une oppression matérialiste, ce que Jésus parle beaucoup. Quand Jésus parle dans les évangiles beaucoup de l'argent, il est en train d'expliquer au monde qu'en fait, l'argent est comme un dieu auquel parfois on peut voir comme une idole à laquelle on sacrifie nos vies. Et parfois, il y a trop de chrétiens qui vivent aujourd'hui en servant le dieu Mammon. Mammon était, dans le temps de la Bible, le dieu qui, entre guillemets, représentait l'argent. Et il y a parfois des gens qui vivent comme ça. Au lieu d'adorer le vrai Dieu créateur, le seul vrai Dieu, ils sont en train de focusser le matin jusqu'au soir à comment je peux faire plus d'argent, pourquoi j'ai perdu autant d'argent, si ton focus numéro un dans ta vie est de faire plus d'argent, malheureusement, tu es en train de servir une idole. Par contre, si tu comprends que Dieu pourvoit à tous nos besoins et que tu dois chercher son royaume et sa justice en premier, tout le reste n'aura pas à t'en inquiéter. Tu te coucheras, tu pourras dormir en paix, même si en ce moment, ton compte n'est pas en train de rouler avec des zéros et des millions et des millions. Non, Dieu pourvoit à tes besoins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on croit à l'évangile de générosité, que Dieu a tellement été généreux envers nous que nous pouvons l'être envers Dieu et envers les autres autour de nous. Ceux qui le croient et qui le vivent, est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Le miracle de demain commence aujourd'hui. Et la première vérité, j'aimerais qu'on regarde, c'est en remerciant Dieu pour hier. C'est toute une roue, c'est un cycle. Si tu veux voir quelque chose arriver demain, il faut que tu le sèmes aujourd'hui. Et Dieu donne des principes au comment et pourquoi semer aujourd'hui. Parce qu'en fait, Dieu t'a tellement béni hier que tu le remercies aujourd'hui. Et cela continue. C'est pour ça que le principe de générosité est un principe que tu n'as jamais fini d'apprendre la générosité de Dieu. Tu n'as jamais fini de continuer de semer dans le royaume de Dieu parce que Dieu nous impressionne par sa bonté. J'espère que vous le savez, mais si vous ne le savez pas, laissez-moi vous le dire. Tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Tout ce que nous avons, toute la vie, l'oxygène que tu as aujourd'hui, tout le métier que tu as aujourd'hui, le salaire que tu reçois aujourd'hui, ou parfois, si tu ne peux plus travailler à cause de quelque chose, d'une maladie, même les aides que tu reçois, tout vient de Dieu. Merci pour notre gouvernement, merci pour les lois qui sont faites, merci pour les valeurs que nous devons prendre soin de. Mais tout vient de Dieu. Dieu se sert de ce monde pour pouvoir nous bénir et pourvoir à tous nos besoins. En fait, au lieu de remercier, je ne pense pas que tu le fasses, mais à chaque fois que tu reçois ta paye, ne remercie pas ton boss, remercie Dieu, parce que Dieu décide de te bénir à travers ton boss. Tu peux remercier ton boss pareil, hein? Écris-lui une carte de fin d'année en disant hey, « merci ». Mais il y a un côté de « est-ce qu'en ce moment tu as une attitude de reconnaissance pour ce que tu reçois de Dieu, pour tout ce qu'il a permis hier jusqu'à aujourd'hui, qu'il t'a béni ?» La Bible enseigne le principe de rendre à Dieu la part qui lui revient. Remercier Dieu en premier. En fait, dès que tu reçois tes revenus, qui remercies-tu en premier? Est-ce que c'est Zara, H&M, Amazon, en fonction de Renault Dépôt? Ouais, les gars, ouais. Une nouvelle scie sauteuse, j'en avais juste 5 dans mon garage. Hein, bref. Mais qui remercies-tu en premier? La manière dont tu gères ton argent va montrer qui tu honores en premier. Est-ce qu'en ce moment, dès que tu reçois, tu es tout de suite en train de dire « Oh, j'ai tellement reçu, c'est Dieu qui a permis que je reçois ça. Qui je vais remercier en premier ?» Il y a un principe dans la parole de Dieu qui s'appelle le principe des prémices. On va le lire dans Proverbes 3, verset 9. « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. » Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. Les prémices veulent dire les premiers, le meilleur. C'était une coutume dans l'Ancien Testament que lorsque tu faisais une récolte, tu prenais ta première gerbe, si tu en avais par exemple 10, tu prenais ta première gerbe, les premiers fruits, et tu venais les offrir à Dieu comme une offrande de reconnaissance en disant « Parce que tu as pourvu pour les 10 autres, je t'offre la première, la meilleure, la plus belle. » Les prémices, c'est de dire c'est toi que je veux honorer le premier. C'est toi envers qui je veux être reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ta provision. Chaque fois que tu reçois en ce moment ton salaire, qui est la personne que tu honores en premier? Est-ce que c'est la carte Visa parce que tu dis, hey, il faut vraiment que je la paye? Et il faut payer ses dettes. Et il faut être un bon intendant. Dieu n'est pas contre l'argent. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, les hommes qui ont reçu le plus de richesse et de puissance, parfois, c'est Dieu qui leur a donné. Regardez Abraham, Salomon. Mais Dieu n'est pas contre l'argent, Dieu n'est pas contre la réussite. Mais Dieu est contre ta recherche première de faire de l'argent et de absolument prospérer matériellement. Regardez combien Jésus confronte le jeune homme riche. Il a une théologie parfaite. Oh, je fais tout ce qu'il faut, j'accomplis les 10 commandements. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Et là, Jésus lui dit, va et sois généreux avec ton argent. Vends tous tes biens. Puis c'était quelqu'un qui avait beaucoup de richesses. Il dit, prends ça et enlève-le, parce qu'il savait que c'était une barrière entre lui et l'appel de Dieu pour sa vie. Son argent était une bénédiction, mais elle était peut-être devenue une malédiction en fait. Dieu pourvoit à tous nos besoins, mais si tu fixes tes yeux seulement sur la bénédiction au lieu de fixer tes yeux sur le Dieu de la bénédiction, tu vas rater ta vie, tu vas rappeler l'appel de ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées à servir Dieu, mais parce qu'ils ont beaucoup de confort et qu'ils ne veulent pas le quitter, ne sont pas prêts à abandonner les biens matériels pour suivre l'appel de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas ton salut et que tu n'es pas sauvé. Ça veut juste dire que tu peux passer à côté d'une destinée que Dieu a prévue pour toi. Cherche Dieu en premier. Regarde ce que Jésus te demande de faire. Et on n'a pas tous le même appel. Il a demandé à Pierre de lâcher tous ses filets. Il n'a pas demandé ça à tout le monde. Il y a un côté où tu dois comprendre aujourd'hui que ce que tu as, les biens matériels que tu as, sont une bénédiction qui vient de Dieu, mais elles ne doivent jamais devenir une malédiction qui t'empêche d'avancer dans le but de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir et encourager quelqu'un en ce moment qui peut-être doute avec ça? Lui donnes-tu ce qui lui revient? Ou est-ce que tu donnes à Dieu ce qui te reste? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner quelque chose à quelqu'un et puis que la personne soit ingrate? Est-ce que ça vous touche? La dernière fois, justement, j'amenais les enfants à la garderie. Et alors qu'à la garderie, tu dois faire un code, j'étais pressé par le temps. Je n'étais pas en retard, j'étais pressé par le temps. Okay? Tant que ça ne sonne pas, tu n'es pas en retard, même s'il reste 3 minutes et que tu as 20 minutes de route. Bref, il y a un côté où je suis pressé. Mais là, je fais mon code, j'amène les enfants et j'ouvre la porte et je vois une madame, une maman avec tous ses enfants, quasiment avec la coquille dans la main, en train de courir. Et puis je vois dans son regard qu'elle m'appelle en disant « Peux-tu garder la porte ouverte ?» Vous avez déjà vu ce regard de compassion? Puis là, je suis comme, je vais perdre encore un 10 secondes. C'est très précieux, le 10 secondes. Ça ne change rien, 10 secondes. Mais bref, tu sais, dans ta tête. Et puis là, OK, avancez les enfants, je vais garder. Et là, la dame passe avec tous ses enfants. Elle en avait 50, j'ai l'impression. Ça a pris une minute quasiment. Et alors que je suis là en train de lui tenir à la porte, elle passe à côté de moi. Et vous savez quoi? Zéro merci. J'ai eu la même réaction. Je suis en train d'apprendre à mes enfants, merci, politesse, ça. Là, j'étais galant, parce que c'était une dame, et j'étais poli en le laissant passer. Et là, j'ai eu quasiment le réflexe. Ça s'est passé dans ma tête, heureusement, mais qu'est-ce qu'on dit? Je ne l'ai pas dit. J'ai juste dit, allez-y, passez une bonne journée. Puis... Mais ça m'a touché alors que c'était juste une porte tenue pendant 10 secondes que je n'ai rien eu à faire, mais c'était de l'ingratitude. Imaginez, quand Dieu nous donne tout ce que nous avons, et que tu n'es même pas capable de lui dire merci avec ce que tu as. Alors que lui dit, hey, moi, je te donne tout. Et crois que même si tu me redonnes en retour, ne crois jamais que tu vas manquer de quelque chose, parce qu'en fait, tu ne peux pas jamais être plus généreux que Dieu. C'est pour ça que quand tu lui donnes, si tu mets Dieu en premier, toute ta vie sera en ordre. Si tu mets Dieu en dernier, malheureusement, il y aura du désordre à mettre dans ta vie. Comprenez-moi, c'est que Dieu n'a pas besoin de ton argent. À lui appartiennent l'or et l'argent. T'inquiète pas qu'il n'en a pas besoin. Mais à travers ça, à travers le principe de générosité, à travers le principe des prémices, à travers le principe des dîmes que l'on arrive et que l'on remet à la maison d'Éternel, Dieu veut nous expliquer, en fait, je n'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin de ton cœur. Parce que crois que 90% de tes revenus bénis de Dieu valent plus qu'un 100% sans sa bénédiction. Et quand Dieu dit, rends-moi ce qui me revient, parce qu'il y a un côté de principe de remettre à Dieu, de remercier, le principe des prémices, puis il y a aussi le principe des dîmes, Malachie 3.10. C'est Dieu qui parle à son peuple en disant, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, 10%, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est fort parce que Dieu il dit, mets-moi à l'épreuve, fais un test avec moi, de croire que ce que je te donne, le 100%, redonne-moi seulement le 10%, puis tu verras que les écluses des cieux vont être ouvertes pour toi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu donnes pour recevoir. Il faut que tu donnes en sachant que tu vas recevoir. Pas forcément, je vais mettre un 5, il va me rendre un 50. Ce n'est pas forcément matériel. Ça peut être la santé, ça peut être la joie dans ta famille, ça peut être un foyer que tu dis, Dieu bénit de génération en génération, ses promesses sont pour 1000 générations. Tu peux compter combien tu donnes à Dieu, tu ne pourras jamais compter combien il te donne à toi. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, si Dieu te demande d'être généreux envers lui, parce que c'est le premier à qui tu dois honorer, il faut que tu le fasses avec une compréhension que j'ai tellement reçu que je veux donner. Dieu te demande aujourd'hui, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu as peur d'en manquer? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit, non, mais moi, tu sais, c'est un peu compliqué, je pense que je vais en manquer un petit peu. C'est comme si, je vous donne une illustration, c'est comme si que tu viens de passer toute une journée où tu n'as pas eu le temps de manger, tu as vraiment faim, et puis tu passes un 2 heures de sport, et là, tu rencontres, tu es exténué, tu rencontres un ami qui vient jusqu'à toi, un ami qui arrive à ce moment-ci, et alors que tu le rencontres, il a en fait ta pizza préférée. Pepperoni, extra fromage, etc. Je ne veux pas vous donner faim à 9h30 du matin. Là, mais... Et là, tu es comme, oh, mais c'est incroyable. J'ai tellement faim, j'ai passé toute ma journée à ne pas manger. Puis là, tu viens vers moi. Et cet ami-là, tellement généreux, vous savez ce qu'il dit? Il dit, tiens, je te la donne au complet. Mais c'est comme, mais merci. Mais c'est plus que ce que je ne pourrais manger moi-même. C'est comme incroyable. Et là, ton ami, alors qu'il veut repartir, te dit juste, je l'avais acheté pour moi initialement, est-ce que je peux juste avoir une slice, là, une part de tout ça? Alors bien sûr, je lui donne une part, parce que s'il m'a tout donné, je peux lui donner facilement, et croyez-moi qu'il m'en reste pas mal. Je peux même en distribuer à des personnes qui sont autour de moi et qui se disent, oh, j'ai faim moi aussi, ben tiens, je peux donner, parce qu'il ne m'en manquera jamais. Dieu te bénit beaucoup plus qu'une pizza. Est-ce qu'on pourrait remercier mon ami qui représente la faveur, la pro... Dieu nous bénit, il nous donne de tout. Mais parfois, on a cette mentalité de « il m'a tellement béni, mais est-ce que je vais en manquer ?» Il t'a tout donné, il te dit juste hey, « hé, par politesse, par principe, par gratitude, reconnaissance, et parce que tu n'es pas matérialiste à dire « oh, c'est juste que pour moi », comme des enfants un peu immatures. Vous avez déjà vu? Tu donnes quelque chose pour quand tu lui dis hey, « hé, je peux en avoir ?»« Non, c'est à moi. » Mais t'es comme hey. « Et là, il y a comme une injustice. Qui... Mais si nous, mauvais comme nous le sommes parfois, on sent une injustice, combien Dieu parfois peut passer une vie sans que quelqu'un lui dise merci pour ce qu'il lui a donné. Dieu bénit celui qui l'honore. Quelqu'un dira, ouais, non, mais tu sais, tu parles de la dîme, mais la dîme, c'est sous l'Ancienne Alliance. C'est comme dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sur la grâce. Combien sont reconnaissants pour la grâce? Depuis Pâques, nous sommes sur la grâce. Pas Pâques 2024, Pâques il y a 2000 ans. Et nous ne sommes plus sous la loi, c'est vrai. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Mais vous savez quoi? La dîme, le principe, est bien avant la loi de Moïse. C'est Abraham. Abraham, des centaines d'années avant Moïse, qui lui a compris lors d'une victoire que Dieu lui avait donné toute cette victoire. Alors lui comprend le côté de reconnaissance, gratitude, et il vient, il redonne le dixième de tous ses biens. Et alors là, la dîme, c'est la première fois qu'elle a été donnée, donc elle est reprise dans la loi de Moïse. Et quelqu'un vient dire, non mais on est plus sous l'Ancienne Alliance, non mais on est toujours sur le principe de générosité. Et maintenant, si Jésus a accompli la loi, en fait il rehausse le standard de la loi. Il disait aux pharisiens, hey, vous avez entendu, œil pour œil, dent pour dent, si quelqu'un te frappe, tu as le droit de le frapper. Non, aujourd'hui, par la grâce, c'est tu vas bénir celui qui te maudit, tu vas prier pour celui qui te persécute, tu vas aimer même tes ennemis. Si Dieu rehausse tous les standards de la loi, est-ce que vous croyez que le standard de la dîme, on le diminue ou on l'augmente? C'est ça le point, c'est que Jésus, parfois les gens disent « Oh, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce ». Ce n'est jamais un bon argument pour donner quasiment plus. C'est toujours pour dire « Oh, je ne suis plus obligé ». Non, tu n'es plus obligé. Tu n'as plus à avoir peur que Dieu te condamne pour ça. Non, parce que Jésus a déjà pris toute la colère. Par contre, si tu veux vivre des bénédictions, comprends le principe que de Dieu, il est éternel, il ne change pas. Et le principe d'être généreux envers Dieu, c'est juste un principe de reconnaissance, de gratitude, parce qu'il m'a tout donné, bien plus que je ne pourrais compter. Je suis prêt à lui donner parce que je ne me sacrifie pas. Je suis en train juste de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Pas une générosité émotionnelle, juste dire, ah, si je le sens, je donnerai. Non, et une discipline, mais une générosité disciplinée. Dès que je reçois avec Sophie, ça fait des années qu'on a mis ce principe en place, et je remercie mes parents pour m'avoir instauré ce principe de générosité, les dîmes, les prémices. La personne, la première que tu as, c'est Dieu, tu lui redonnes. Et au début, je ne comprenais pas. Alors au début, je suis comme, oh wow, c'est un gros montant. Mais en fait, quand tu comprends que Dieu, tu ne peux pas être plus généreux que lui, il va toujours te bénir au-delà de ce que tu as besoin. Mets le royaume de Dieu en premier. Et tout le reste, tu n'auras même pas à y penser que tu vas voir Dieu, la faveur va t'accompagner. Parce que Dieu bénit. Alors que j'étais là, je me disais, Seigneur, donne-nous à notre église. Et qui est une église généreuse? Nous ne serions jamais dans cette saison de récolte-là si vous n'aviez pas déjà semé depuis longtemps. Mais je crois qu'on est toujours appelé à être confronté en « Est-ce qu'en ce moment je suis redevenu matérialiste ?» Si la parole de Dieu ne vient pas travailler nos cœurs, parfois nous pouvons redevenir sous l'idole d'un côté où « Ah, j'en ai plus besoin, j'en ai besoin !» Comme ce témoignage d'une vieille dame qui est en train de faire ses comptes et elle regarde toutes ses comptes des dernières années, puis son fils qui n'est pas chrétien regarde ses comptes avec elle. Et puis lui, il commence à dire « Maman, t'as donné tout ça à Dieu, aux missions aux... ?» Mais avec tout cet argent, pendant des dizaines d'années, tu aurais pu t'acheter 3 maisons. Puis cette dame regarde et puis tout innocemment, elle dit, « J'ai peut-être pas 3 maisons, mais celle que j'ai a toujours été remplie de bénédictions. » Il faut que tu crois qu'en ce moment, ton numéro 1, c'est pas de faire de l'argent, c'est faire que le royaume de Dieu avance. Et avec les ressources que Dieu m'a données, je veux semer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui prend soin de nous au travers de la générosité des autres et qui veut faire pareil avec la nôtre? Pour que notre maison, l'église de Dieu, continue d'être un hôpital spirituel pour chaque âme brisée qui vient ici. Qu'on puisse être en mesure de bien les accueillir avec des stationnements, avec des services pour les enfants, à faire en sorte que la personne, il n'y ait aucun barrage à ce qu'elle entende la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que l'église continue d'être une école qui enseigne et forme des disciples. Pour être une famille qui prend soin des gens, de célébrer, oui, les dimanches, mais d'avancer avec des personnes, avec les soins pastoraux, toutes des équipes qui avancent, que ce soit dans les funérailles, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les moments de visite à l'hôpital pour quelqu'un qui passe un cancer. C'est ça l'Église. Et lorsqu'on sème dans la maison de Dieu, nous redonnons à Dieu en disant, Seigneur, merci pour la maison qui nous a accueillis, qui nous a guéris, qui nous a relevés. Nous voulons faire la même chose pour des centaines et des milliers qui arrivent dans tous nos sites à Nouvelle Vie. Et on est aujourd'hui à 10. Qui sait demain on sera à 20. Il faut que nous puissions continuer de semer pour que nous puissions continuer de voir le miracle de demain. La deuxième vérité de ce matin, c'est en sachant que Dieu multiplie ce que je lui donne. Dieu multiplie toujours lorsqu'on sème dans le royaume de Dieu. C'est le principe du petit garçon qui dit, moi j'ai juste un lunch alors que Jésus s'en va pour nourrir des multitudes. Et lui, il lui donne juste le peu qu'il a, la goutte d'eau dans l'océan. Mais ce n'est pas tant les ressources que tu as, c'est plus entre les mains de qui tu les mets. Parce que le peu que tu as ne peut même pas des fois convenir à juste 10 personnes, mais entre les mains de Dieu, Dieu multiplie. Parce que la terre du royaume de Dieu est une terre miraculeuse. Quand une église vient et donne, elle sème dans une terre qui est fertile et qui continue. C'est le principe de multiplication. Dans 2 Corinthiens 9, 6, c'est Paul qui dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. » Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si aujourd'hui tu dis, bon, je donne, mais je me sens obligé de donner, donne même pas. Comme je t'ai dit, Dieu ne veut pas ton argent, Dieu veut ton cœur. Si tu ne comprends pas en ce moment le principe de j'ai tellement reçu que je veux tellement donner, il y a un côté où tu n'auras pas compris. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que j'ai donné, non, il y a une discipline, une générosité disciplinée, je donne, parce que c'est à Dieu que revient. Mais aussi, il y a une générosité au Seigneur, si je vois un besoin autour de moi. Donne-moi une générosité spontanée. Vous savez, quand Jésus, justement, va confronter les pharisiens, il va leur dire, vous avez compris le principe de dîme et des prémices, mais vous oubliez toute la justice de Dieu. En fait, vous avez une générosité tellement disciplinée que vous avez enlevé cette générosité spontanée, avec compassion, grâce, avec amour. Quand il leur dit, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté, la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Donc si en ce moment, tu es juste quelqu'un qui donne de manière disciplinée à dire, moi je suis un bon chrétien parce que je donne tout le temps. Parfois tu te glorifies du peu que tu donnes ou du gros montant que tu donnes, peu importe. Mais entre les mains de Dieu, il y a une générosité que lui fait fructifier, mais il veut également t'ouvrir les yeux aux besoins autour de toi. Parce que l'Église n'est pas seulement appelée à recevoir, elle est appelée à donner. C'est même pour ça qu'à chaque fois que je vois quelqu'un de nouveau qui arrive à l'Église, puis quand il y a une vidéo qui passe, voici ce que vos dons ont permis de donner à la mission, Mission Nouvelle Vie, dans, partout, que ce soit à l'international, dans des crises humanitaires, ou que ce soit même sur notre territoire, ici au Québec, dans les communautés des Premières Nations. Là où, à un moment donné, il y a des gens qui n'ont même pas de l'eau courante. Il y a une Église qui doit se lever en disant, s'il y a une injustice, le cœur de Dieu est là-bas. Nous devons donner également. Il y a un côté que nous devons avoir une générosité spontanée, une générosité disciplinée. Alors que je regardais ça, je me disais, Seigneur, quelle joie de semer dans une terre où on sait que ce qu'on sème, on va le récolter. Le royaume de Dieu avance. On peut voir rapidement qu'est-ce qui se passe à Nouvelle-Vie. C'est pour ça que lorsque je donne ma dîme avec Sophie, il y a quelques années, on a changé. Alors que c'était le virement automatique qu'on faisait, on a changé en disant, Seigneur, on veut qu'à chaque fois qu'on reçoit notre paye, on veut nous venir, puis on le fait de manière numérique, mais venir et de donner directement. Parce que lorsque je donne mon virement, je suis en train de dire, Seigneur, merci pour ce que tu as. Merci pour ce que tu as pourvu. Merci parce que si je peux te donner ce montant-là, c'est parce que tu m'as donné. Et je sais qu'en le semant dans le royaume de Dieu, au travers de l'Église locale, qui est la manifestation de Dieu pour la gloire et la résurrection de nos villes, de nos communautés, Jésus est en train de dire, si tu le fais de manière, avec un cœur de compassion, avec un cœur de reconnaissance, moi je vais multiplier, je vais faire briller mon Église. C'est Jean 15, 8 qui dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est Jésus qui dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples, non seulement pour la maison, mais aussi pour les démunis, les défavorisés. J'ai acheté une Bible il y a quelques années, elle s'appelle la Bible de la pauvreté et de la justice. Et c'est une Bible qui a mis en couleur tous les passages, il y en a plus de 2000, où Dieu parle. Voici comment vous allez prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de la personne qui est démunie, qui est peut-être... En fait, Jésus lui-même s'est identifié avec quelqu'un de démuni quand il a dit à ses disciples, « À chaque fois que j'ai eu soif et que vous m'avez donné à boire, à chaque fois que j'étais nu, vous êtes venu me vêtir. À chaque fois que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. À chaque fois que j'étais malade, vous êtes venu me visiter. À chaque fois que j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » Jésus dit ça à ses disciples, mais ses disciples disent, « Mais on ne t'a jamais vu avoir faim, ni aller en prison. Qu'est-ce que tu racontes ?» Jésus est en train de dire, « Non, à chaque fois que vous l'avez fait à un des plus petits de notre société, à un des rejetés, c'est en fait à moi que vous l'avez fait. Quand tu sèmes dans le royaume de Dieu, pour la maison de Dieu, mais aussi pour le cœur de Dieu, pour toutes les personnes qui sont en ce moment en train de passer des moments de pauvreté, qui sont démunis, qui sont défavorisés, c'est le cœur de Dieu. Tu es en train, en fait, de donner à Dieu lui-même. Quand tu donnes aux pauvres, tu donnes à Dieu. Parce que le cœur de Dieu est venu pour que les défavorisés reçoivent une grâce. » Et l'Église est là pour démontrer son amour. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui nous montre quelle est notre mission? 1 Jean 3,16, voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède des biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? La générosité, la spontanéité, la libéralité démontrent l'amour de Dieu. Combien savent que quand tu reçois quelque chose, tu es tellement, oh, tu es heureux, tu reçois quelque chose que tu n'avais pas prévu, comme en illustration. Waouh, c'est un cadeau, c'est un clin d'œil de Dieu. Mais combien savent qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Ceux qui l'ont déjà vécu, vous le savez de quoi je parle. Puis ça peut paraître complètement paradoxal, cette pensée-là. Non, quand je reçois, je suis bien content. Non! Quand tu donnes de manière complètement sans attendre rien en retour, parfois tu donnes à des gens, à des familles où tu sais qu'ils ne pourront jamais te le rendre. Mais c'est ça le cœur de Dieu, c'est que je donne sans rien attendre en retour. Ce n'est pas un investissement de « je te donne, j'espère recevoir ». Non, je te donne parce qu'en ce moment tu vis un besoin et le cœur de Dieu, c'est d'être proche de ceux qui souffrent. Et alors que je te le donne, il y a une joie. Tu te coupes de quelque chose, tu te sacrifies. Mais la joie qui est très spirituelle, que Dieu te donne en disant « regarde ce que tu as fait ». Tu t'es peut-être coupé d'un superflu de 3-4 restos dans le mois peut-être, mais eux, ça leur permet de manger à leur faim, d'avoir des cadeaux à Noël dans les distributions qu'on fait avec l'Église et qu'on soutient des partenaires qui donnent de la nourriture à des centaines de familles, des milliers de personnes sur la rive sud de Montréal. Nous devons pas seulement dire, Seigneur, on te donne pour que nous on reçoive. Non, Seigneur, nous avons tellement reçu que ceux qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas ton amour, qui pensent que ce monde, il n'y a rien, c'est tout, c'est fini, c'est difficile, l'Église est là pour soutenir, l'Église est là pour aider, l'Église est là pour dire, Dieu t'aime tellement, voici le cadeau qu'il te donne. Est-ce qu'il y a une église qui le croit, qui peut applaudir? en disant, Seigneur, fais de nous une église généreuse. Rick Warren disait, la générosité est un signe de maturité spirituelle. Cela montre que nous avons confiance que Dieu pourvoit à nos besoins et que nous sommes prêts à aider les autres. Est-ce qu'en ce moment tu crois à ça? Est-ce que ta foi est assez complète en disant, Seigneur, je crois que si je peux donner à ton œuvre, au royaume de Dieu, aux besoins de la maison spirituelle, de la moisson, et alors que l'Église donne aussi pour la formation des ouvriers. Jésus dit, hein, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pour ça que quand un ouvrier arrive, il faut qu'on le forme. Il faut que quelqu'un dise, hey, moi j'ai peut-être envie d'ouvrir une église, et un site Nouvelle Vie, est-ce que je pourrais faire partie des... Il faut des ressources pour pouvoir aider à la moisson. Mais il y a aussi la mission. Que le cœur du Père pleure lorsqu'il voit une humanité vivre dans la pauvreté. Et c'est pour ça qu'il a choisi que son église soit son bras. Que son église soit son sourire. C'est fou, hein? Dieu règne. Mais il permet que nous puissions être son bras de générosité. Quel privilège, en fait. Quel privilège de savoir que Dieu nous donne, comble nos besoins et nous demande, nous, de prendre la générosité que nous avons reçue pour pouvoir être généreux à notre tour. Nous sommes un vaisseau par lequel Dieu bénit des gens. Quelle est la plus grande mission de ta vie que ça? Réaliser que tu pourvois aux besoins des autres. Et puis quelqu'un pourra dire, ouais, mais tu sais, est-ce que vraiment on pourvoit? C'est comme une goutte dans l'océan. Si tu crois qu'on peut éradiquer la pauvreté du monde juste par en donnant... Non, mais c'est pas tant de... Hey, est-ce que le besoin va être comblé à 100%? J'aime cette citation de Tim Keller qui dit, la générosité ne consiste pas seulement à répondre aux besoins, mais à répandre la joie. Ce n'est pas la taille du cadeau qui compte, mais la grandeur du cœur qui le donne. Seigneur, augmente ma foi de croire que si tu me donnes, et que moi je donne en conformité à ta parole, je ne manquerai de rien. Et même si je crois qu'en ce moment, ben, parfois je sacrifie, Seigneur, donne-moi de croire que je ne suis pas en train de donner à une institution ou à des structures, ou non, je donne au royaume de Dieu. C'est pour ça que à chaque fois que j'entends une réunion d'affaires comme il y a eu il y a quelques semaines et de voir que même l'Église Nouvelle Vie a des audits gouvernementaux qui viennent vérifier comment est gérée toutes les finances et de voir toute l'équipe de comptabilité de l'Église avec pasteur Luc Poirier qui donne un leadership incroyable, qui gère de manière à ce que tout l'argent qu'on reçoit doit être investi pour le royaume de Dieu, doit être... Le gouvernement même met une note de A+, prend le cas de l'Église Nouvelle Vie pour dire, regardez, elles vont faire des formations dans les autres associations à but non lucratif pour dire, voici comment vous devez gérer l'argent. Parce que ça, c'est une association qui a compris que voici par transparence, que voici par tout ce que l'argent est donné, il y a une confiance que vous pouvez avoir à l'Église. Parce que le royaume de Dieu, c'est de donner avec générosité, de savoir que Dieu nous a tellement donné que nous voulons donner en retour. Il y a des gens qui viennent et puis disaient, je n'avais jamais compris qu'une église donnait autant aux œuvres humanitaires, des centaines de millions de dollars depuis les 30 dernières années, et on ne va jamais s'arrêter. Il y a des besoins encore plus grands, nombreux. Il va falloir que son église... Mais je crois qu'au plus les ténèbres de la pauvreté augmentent, au plus la lumière de la générosité de l'église doit briller. Nous devons, et il n'y a pas de temps à perdre. Je riais, en même temps je pleurais parce que j'ai lu un article qui disait que un boucher japonais dans une boucherie, les clients acceptent de patienter 30 ans pour des croquettes de bœuf. Écoutez ça. Un boucher japonais de la région de Kobe, célèbre pour ses célèbres bœufs, propose des croquettes de viande particulièrement recherchées par les amateurs. Au point que pour goûter l'une d'entre elles, vous devrez attendre 30 ans. Il y a une liste d'attente, puis il y a des photos sur les réseaux sociaux qui montrent « Oh, j'avais commandé il y a 15 ans, je ne m'en rappelais même plus, puis je viens de le recevoir. » Mais autant tu te dis « Oh, c'est devenu un truc de luxe parce que le restaurant fait des beignets, des croquettes de bœuf, ok ?» Dans la ville, il n'y a que lui. Il n'en produit que 200 par jour. Mais parce qu'il ne veut pas agrandir son magasin, parce qu'il ne veut pas se multiplier, c'est devenu un produit tellement luxueux, vendu à 3 200 $ les croquettes. Ça vous donne faim? Mais parce qu'il ne veut pas agrandir, parce qu'il ne veut pas se multiplier, il est obligé de faire patienter les gens 30 ans. Ça bouillonnait dans mon cœur de me dire, Seigneur, il y a des communautés... Au Québec, en francophonie, on ne peut pas les faire patienter 30 ans parce que juste, oh, on est bien entre nous, on va juste garder tout ce qu'on a ici. Seigneur, fais de nous des gens qui distribuent gratuitement l'Évangile. Fais de nous des gens qui implantons des églises. Merci pour ta grâce qui nous donne d'être une église assez forte pour croire qu'on peut se multiplier. Seigneur, fais-nous comprendre les principes de générosité que parce qu'on a beaucoup reçu, merci pour Nouvelle Vie Longueuil qui pendant plus de 20 ans a été une église, mais qui à un moment donné a commencé en 2017 à dire « Et si la prairie pouvait devenir une église Nouvelle Vie ?» Et aujourd'hui, on avait 1300 personnes la semaine dernière. Ça, c'est que parce que Nouvelle Vie Longueuil a dit « On va semer en la prairie. » Et la prairie a dit « On va continuer de semer. » Et que de Drummondville à Charlevoix, à tous les sites aujourd'hui, Seigneur, fais que chaque ville du Québec ait une église qui proclame le nom, la lumière de Jésus-Christ. Fais que notre générosité puisse accomplir l'œuvre de Dieu. Le miracle de Dieu, c'est aujourd'hui qu'il se construit pour qu'on puisse continuer de récolter demain. Quelqu'un dira « Oui, mais c'est difficile de se sacrifier. Regarde à Jésus. » Et même dans un message de générosité, on peut quand même revenir à Jésus parce que tout pointe à Jésus. Il est celui qui a accompli le modèle parfait de l'Ancien Testament jusqu'à nous aujourd'hui en 2024. Nous pouvons regarder Jésus en disant « Regarde ce qu'il a fait. » Lui qui n'a pas regardé à Hébreux, on voit ça. On voit qu'il dit dans le passage d'Hébreux, laissez-moi le trouver, Hébreux 12, 2. « Fixons les regards sur Jésus, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » C'est pour ça que Jésus, quand il s'est tenu, il n'a pas dit « Oh, mais le sacrifice est grand. » Il a dit « Je regarde l'éternité avec la joie de voir des millions, des milliards de personnes sauvées. Et par ce sacrifice, je suis en train de donner. Car Dieu a tellement aimé le monde, vous et moi, qu'il a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est donné complètement pour que nous puissions recevoir la plus grande générosité, c'est Dieu qui nous l'a déjà démontré en la personne de Jésus. Mais il dit, notre Église, soyez comme moi, donnez avec générosité, regardez aux besoins autour de vous. Peut-être tu as un collègue en ce moment qui passe par des moments difficiles. Sois la personne qui met la main à la poche et qui dit, je donne. Parce que Dieu comblera mes besoins. Je peux croire que ce que je donne, Dieu a déjà pourvu que je suis une bénédiction pour lui. Et je ne manquerai de rien parce que Dieu honore celui qui l'honore. Tu ne peux jamais être plus généreux que Dieu. C'est pour ça que si nous comprenons le principe de générosité, nous serons une église qui se sacrifie, qui avance, qui donne, mais qui récolte. Parce que Dieu veut faire de nous une église qui brille, le sel de la terre pour donner le soif aux gens de dire « il y a quelque chose en vous ». Par l'amour que nous avons, que personne ici dise « ah oh, mais je passe par des moments difficiles hey, ». Il y a une église qui est venue me porter secours. En prison, il y a des gens qui viennent m'apporter la bonne nouvelle parce que c'est le cœur de Dieu d'être proche des démunis, de semer dans une terre qui est fertile. Est-ce qu'il y a une église qui veut donner avec joie aujourd'hui en disant « Seigneur, fais de nous ». Non pas des donateurs, mais des disciples qui donnent avec joie parce que nous avons tellement reçu que nous voulons donner. Est-ce qu'on peut donner une gloire à Dieu avec nos applaudissements? Est-ce qu'on peut terminer par un chant de réjouissance? Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Et alors que je préparais ce message, je me disais, Seigneur, le point de la générosité, c'est de donner avec joie. Ça ne veut pas dire que le sacrifice n'est pas réel. Non, ça veut dire qu'au-delà du sacrifice, il y a quelque chose d'une joie et d'un bonheur qui donne. Seigneur, donne-nous de ne jamais être une église centrée sur nos besoins, mais avec un regard centré sur les besoins des autres. Comment je peux faire pour combler les besoins des autres? Seigneur, donne-nous un cœur assez généreux pour savoir que si tu nous as placés dans cette église, c'est dans cette église que nous devons semer. Nous devons te donner les prémices, nous devons te donner, apporter les dîmes, nous devons donner une générosité à toi parce que tu nous as guidés ici. Seigneur, fais de nous un peuple qui est généreux. Fais de nous un peuple qui chante « Alléluia ». Parce que la bonne nouvelle de l'Évangile est une bonne nouvelle. Et Seigneur, pour le salut des gens, Seigneur, nous allons continuer de semer, nous allons continuer de nous lever, de servir, nous allons continuer de célébrer, de prier. Est-ce qu'il y a une église qui veut lever ses mains et commencer à louer notre Dieu? En disant, Seigneur, fais de nous un peuple, Seigneur, par la joie, qui reçoit beaucoup mais qui donne beaucoup. Fais de nous un peuple, Seigneur, qui crie Alléluia. Seigneur, de la honte que les gens peuvent vivre, que ta gloire rayonne dans leur vie. Que des témoignages, Seigneur, comme la semaine dernière, des prisonniers qui sont venus libres en toi, captifs spirituels, complètement délivrés. Fais de nous une église qui voit les besoins, Seigneur, qui comble, Seigneur, par notre générosité, par notre amour, que nous puissions être une église qui célèbre ton nom. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, acclamer notre Dieu ?